Est-ce que notre monde moderne se détache trop de ses traditions, de son histoire, de toutes ses racines antiques ?
Une vaste question. Il est clair qu'il y a, un écart de fait. Il y a un écart de fait dans tous les domaines, par la technologie. Mais en même temps, il me semble qu'il y a un héritage qui est extrêmement présent et qui est encore plein de promesses, de possibilités qu'on n'a pas exploité suffisamment dans toutes sortes de domaines. Moi-même, je ne peux pas évoquer toute la sphère des correspondances entre l'Antiquité et le monde moderne et contemporain, parce qu'on en trouverait que je ne pratique pas. Je pense même à des domaines comme la musique, pour citer un cas très relativement lointain. Moi, je le vois, je suis donc un professionnel de l'histoire. Je ne suis pas un philosophe, même si ça peut m'intéresser, naturellement. Je ne suis pas un spécialiste de la littérature. Mais je constate que dans tous les domaines, il y a une telle richesse de l'héritage antique qui était affirmée autrefois, qui aujourd'hui est un peu souterrain, si vous voulez. On a perdu conscience que cet héritage était encore très présent, même s'il n'est pas affirmé comme il l'était. On n'imite plus les anciens, si vous voulez. Au contraire, pendant longtemps, on s'est opposé à eux. Je suis très frappé aussi par les enseignements qu'on peut trouver sur le plan politique, où il y a tout de même, dans l'Antiquité, toutes sortes de... Je ne veux pas dire de modèle, parce que le modèle a quelque chose de contraignant. On devrait suivre des modèles, mais des expériences, disons. Des expériences qui restent extrêmement riches et instructives. Je vous citerai un problème qui m'a occupé ces derniers temps. J'étudie notamment les origines du fédéralisme. Vous voyez que le fédéralisme... Pendant longtemps, c'est une chose qui n'a pas été, je dirais, très à la mode et étudiée, notamment en France. Parce qu'en France, il n'y a pas une tradition fédéraliste, à la différence de ce qu'on trouve dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Suisse, dont je viens, et ailleurs encore, sans parler des États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est une notion qui gagne du terrain, puisque finalement... L'avenir, peut-être, de l'Union européenne, qui n'est pas une fédération, mais qui s'en rapproche et qui tend vers confédération au sens strict du terme, eh bien, c'est une expérience que les anciens ont faite et où il y a une foule d'exemples remarquables qui, autrefois, je veux dire, à l'époque des Lumières, à l'époque de Diderot, à l'époque surtout de Montesquieu, ces exemples anciens, ils étaient pris en considération, ils étaient étudiés, ils nourrissaient à la réflexion. Et aujourd'hui, on a l'impression d'une coupure. Parce que, disons, nos contemporains étant moins bien formés, ils n'ont plus l'accès direct, ils n'ont plus le souvenir d'enfance non plus, qui sont souvent point de départ vers une curiosité, une lecture. Et je constatais effectivement que de très bons juristes aujourd'hui, des spécialistes des institutions européennes, n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, des modèles qui existaient dans l'Antiquité, qui sont tout à fait passionnants, avec leurs avancées, leurs échecs, et parce que le monde moderne, lui aussi, rencontre des difficultés. Donc l'expérience passée est loin d'être épuisée.
Et cette conscience de l'expérience passée, est-ce qu'elle est tributaire justement de l'apprentissage des langues anciennes ?
Oui et non. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais touché aux langues anciennes, même de manière très sommaire, un peu superficielle, vous n'aurez probablement pas même le réflexe de vous poser la question. Il est clair qu'on ne saurait songer à faire de tous les élèves des spécialistes des langues anciennes et de les mener à un très haut niveau de compréhension qui demande souvent des années. Mais le seul fait d'avoir été mis en contact laisse probablement un souvenir considérable et le moment venu se réveille et permettrait de disons, d'enrichir la réflexion, de penser un peu autrement le monde moderne, être un petit peu moins soumis au mode, pour ne pas dire au matraquage, parce que c'est ça le problème d'aujourd'hui. Il y a le risque, c'est de n'avoir plus qu'une seule pensée diffusée par les mêmes moyens qui emprisonne l'individu. Je vois l'étude des langues anciennes comme une école de liberté, si vous voulez, permettant de rompre avec les slogans, avec... Je ne place pas l'Antiquité comme un modèle absolu. Ce n'est pas la querelle des anciens et des modernes. Mais ce qui me fascine, c'est la richesse des expériences. Je ne dirais pas, par exemple, les Grecs de l'Antiquité, pour ne rien dire des Grecs d'aujourd'hui, soient un modèle absolu. Et je ne dirais pas qu'il faille faire comme eux. C'est une civilisation où on s'est battu, on s'est déchiré. Mais il se trouve que tout cela a été dit, a été pensé, souvent de façon admirable. Et cela est à notre disposition.
Alors, vous avez parlé de matraquage. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des langues anciennes? Ou est-ce qu'il y a comme une sorte d'incompatibilité entre ce flux permanent du monde moderne et puis ces langues anciennes?
Je dirais, aujourd'hui, la césure, elle n'est pas, je crois, entre le monde contemporain, le monde que nous vivons jour après jour, dans l'immédiateté. Elle est entre ce monde-ci et tout le passé culturel, dont l'Antiquité n'est qu'en réalité qu'une partie, peut-être le socle, mais je crois qu'on ne peut pas dire que l'Antiquité soit une espèce, disons, d'annexe qui serait réservée aux chercheurs, aux spécialistes, parce que si on fait cela, en réalité, et on le voit déjà, c'est toute la tradition qui vient de l'Antiquité qui est mise en péril. C'est-à-dire également le Moyen-Âge, la Renaissance, le monde classique, la grande littérature française et européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, au moins jusqu'à la Révolution française, et même au-delà. Donc, en quelque sorte, c'est tout le champ culturel qui se restreint à l'intérêt immédiat, souvent économique, ou alors celui de mode culturel extra-européenne, qui en elles-mêmes ont leur mérite, sans doute, mais qui ne peuvent pas, à mes yeux, effacer ce qui fait, en quelque sorte, l'originalité et l'unité européenne. C'est là que se trouve le socle. Mais je n'isolerai pas, vous voyez, c'est ce que je veux dire, je n'isolerai pas cette énorme tradition antique, très complexe, extraordinairement riche, de tout ce qui a suivi. Parce que il se trouve que tous les artistes, tous les écrivains et poètes, tous les philosophes de l'âge dit classique, au sens le plus large, c'est-à-dire de la Renaissance en tout cas, je dirais volontiers jusqu'au XIXe siècle y compris, ont puisé complètement. Se sont soit inspirés, se sont soit opposés, mais c'est-à-dire en connaissance de cause. Le dilemme, il est donc beaucoup plus large que simplement l'Antiquité gréco-romaine. Alors, il est clair que nous ne sommes plus dans la situation du XVIIIe siècle, sans parler même des époques antérieures, où véritablement l'imitation était vue comme un passage obligé, comme un élément essentiel de la formation. Et aujourd'hui, l'imitation, précisément, qui joue un tel rôle dans l'Antiquité, dans la formation, ce qu'on appelle d'un terme grec un peu pédant, excusez-moi, mais qui est utilisé par les philosophes aujourd'hui encore, c'est la mimésis, le fait d'imiter, notamment des grands modèles. Or aujourd'hui, on le sent bien, dans notre monde, l'imitation a une connotation péjorative. Celui qui imite ne peut pas être un grand artiste, puisque il n'a pas. On a tellement valorisé l'originalité, le pastiche, effectivement, sans parler du plagiat, qui est encore pire. C'est le plagiat et l'imitation masquée est condamnable. Mais dans l'Antiquité, il y avait des genres littéraires, des genres artistiques. On les respectait. L'originalité, elle résultait non pas du temps d'une recherche de l'originalité à tout prix, mais de ce qu'on était meilleur, tout simplement, en utilisant les mêmes principes, les mêmes règles. Et là, il y a une coupure, véritablement. Hein. On ne veut plus imiter, et donc l'Antiquité comme modèle, en tout cas, par là, est complètement rejetée. Vous me demandiez aussi, si je me souviens bien, au fond, il y avait de l'avenir pour ces études et si on avait lieu de craindre qu'elles ne disparaissent. Là aussi, il faut essayer de prendre un petit peu de recul parce que l'histoire du latin et du grec, c'est elle-même une histoire très longue des rapports du monde qui évolue avec l'Antiquité. Ces rapports changent et ce ne serait pas la première fois dans l'histoire que l'on assisterait à une cassure, à une coupure. Vous savez que, par exemple, pour ce qui est du grec, il a été pratiquement négligé, ignoré dans ce monde médiéval qui, par ailleurs, a été très brillant, à part quelques philosophes qui, de manière tout à fait indirecte, souvent par la voie du latin ou la voie des langues orientales, par le biais même de la pensée musulmane, a eu accès à ces textes de l'Antiquité, notamment aux philosophes, à Aristote. Donc, en plein Moyen-Âge, même les plus grands savants ignoraient le grec. Donc, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'il y aurait une telle cassure. Évidemment, il vaudrait mieux pouvoir l'éviter, parce qu'il y aurait des pertes avec cette rupture, certainement. Moi-même, si je ne suis pas nécessairement très optimiste pour l'avenir immédiat, compte tenu de l'atmosphère générale et des orientations de l'enseignement, il n'y a pas lieu d'être particulièrement optimiste. Mais j'en ai deux choses. Sur le plan général, je crois qu'il y a dans ce bagage antique une telle richesse qu'un jour ou l'autre, on y reviendra. Parce que je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent ailleurs. Il y a un ensemble d'une telle variété, d'une telle richesse, dont on n'a tout simplement pas l'équivalent, quel qu'ait été le mérite ou la réussite d'autres civilisations, il n'y a pas un tel ensemble, conservé tout simplement. Bon ou mauvais, il est là. Et je pense que tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui cherchent le beau, qui cherchent à comprendre l'individu, même les sciences. Je suis frappé souvent par les travaux tout à fait hors de ma spécialité qui se font dans le domaine de l'histoire de la médecine. J'ai un collègue éminent, un confrère à l'Académie des inscriptions, M. Johanna, un des principaux hellénistes en France, qui mène ses travaux avec d'autres et montre combien le vocabulaire de ces médecins d'autrefois, même si, évidemment, par rapport au progrès de la médecine, sont encore des débutants, sont encore dans l'enfance de l'art, mais ils ont un vocabulaire d'une précision extraordinaire, leur raisonnement est d'une rigueur exemplaire, même si, en fin de compte, ils ne peuvent pas parvenir aux résultats que nous connaissons, mais leur démarche est d'une modernité extraordinaire. Hein. Et des mots, vous voyez, voilà, diagnostic, pronostic, ce sont des mots grecs. Je dis volontiers, j'utilise cette expression, je ne prétends pas l'avoir inventée, mais nous avons un grec quotidien. C'est-à-dire que, sans le savoir, nous utilisons des termes qui viennent du grec et du latin, souvent du grec par le latin, hein, qui constituent une partie non négligeable de notre vocabulaire et d'un vocabulaire très technique, très, très moderne, mais quotidien. On utilise 1000 fois par jour le mot système. Ah, le système, c'est typiquement un mot grec dont on peut suivre l'histoire, qui est né à partir d'un certain moment et qui a un sens bien, bien précis. On doit garder l'essentiel. Ça, c'est ce que j'appelle volontiers notre grec quotidien, qui est quand même très présent.
Vous parliez de vocabulaire, je me dis si, concernant justement l'apprentissage de la langue latine, oui. Parce que si on veut opérer un retour à la civilisation, on a toutes les traductions qui sont oui. À portée de main. Alors pourquoi serait-il important de retourner à la langue, à l'apprentissage de la langue même ?
Votre question est tout à fait pertinente. La civilisation, effectivement, on peut y accéder par des moyens, et même des moyens qui sont nouveaux, ils sont très performants et qui nous permettent aux plus jeunes et aux autres aussi d'avoir une idée extraordinairement précise, bien meilleure en fait que qu'un élève de 1950, sans parler d'avant, pouvait avoir. Les reconstitutions les, de toutes sortes. Mais précisément, il ne faudrait pas que cet aspect civilisation vienne encombrer complètement le terrain au détriment de l'apprentissage de la langue, parce que j'ai le sentiment que l'apprentissage d'une langue ancienne permet de structurer son esprit et a des effets très positifs pour la maîtrise de la langue maternelle et d'autres langues modernes. Le même profit pourrait être retiré éventuellement de l'apprentissage d'autres langues, et des langues qui, mais où il faudrait alors que ces langues, précisément, soient enseignées en quelque sorte comme des langues mortes, c'est-à-dire enseignées d'une façon qui est très différente de celle que l'on prône aujourd'hui. Aujourd'hui, on prône un enseignement par immersion, parce qu'on considère qu'apprendre une langue, c'est d'abord apprendre un moyen de communication, il faut aller vite, il faut être efficace, il faut parler, tandis que l'apprentissage d'une langue morte exclut en principe, sauf exception, qu'on la parle, dont on ait besoin, encore que parfois ça peut être utile de pouvoir placer quelques mots avec des étrangers, ça, c'est des cas qui se présentent, mais enfin c'est tout à fait secondaire. Et c'est d'examiner une langue comme une structure qui a ses règles et qui offre une espèce de référence pour pouvoir ensuite comprendre sa propre langue. Parce que je crois savoir, je crois deviner, même si je n'ai pas une expérience d'enseignant. J'ai un peu enseigné dans mon jeune âge, mais je ne peux pas témoigner de ce que pourrait dire un maître d'aujourd'hui, un professeur, vis-à-vis des attentes, vis-à-vis des faiblesses. Mais ce que je crois entendre, c'est qu'il y a quand même, sur ce point, un déficit assez considérable. Les écoliers, étudiants même, au-delà, ont beaucoup de mal à analyser tout simplement une phrase, de voir comment elle se structure. Et par là, c'est peut-être tout le système de la pensée qui est éventuellement mis en péril, au profit d'une autre, moins bien jugée, au profit d'un autre système, notamment celui de l'informatique, tout ce que les réflexes que cela entraîne. Mais l'étude des langues anciennes permet quand même un détachement. Il y a une grande satisfaction à pouvoir décortiquer, mais ça suppose évidemment un peu de temps, hein, c'est ce qui manque souvent, décortiquer une phrase, arriver au résultat, comprendre une pensée qui s'avère à la fois justement lointaine peut-être, mais finalement très proche, parce que c'était fondamentalement des hommes comme vous et moi, ou des femmes qui, dont l'esprit était fait exactement de la même manière, hein, et avec qui on peut justement entrer en contact par ce biais. Vous comprenez, quand vous apprenez le latin, on est obligé, c'est vital, de voir où est le sujet de la phrase, où est le verbe, où est le complément d'objet, autrement on n'y arrive pas. Et le latin fait voir, par une chose qui est devenue très étrangère dans la plupart des langues modernes, le système des cas qui font voir, et en latin particulièrement bien, peut-être encore mieux que le grec, parce que le latin gardait tout un éventail de cas, les fonctions. La fonction de chaque mot est mise en évidence. Et ensuite, il est assez simple, si le maître l'indique, de voir comment, dans une autre langue, dans la sienne propre, en l'occurrence le français, on peut se passer des cas grâce à d'autres outils qui finalement ne sont pas moins efficaces, mais qui supposent un autre système. Là, on prend conscience que la langue que l'on parle, elle est aussi un accident de l'histoire, d'une certaine manière, hein. Sans parler alors d'un autre volet qui n'est plus de la syntaxe, mais qui est le volet lexical, les mots. Tout de même, je parlais tout à l'heure du grec quotidien, mais le français, dans le français, vous trouvez encore à beaucoup plus large mesure le latin quotidien. L'essentiel des mots qui viennent, disons, qui étaient transmis de manière naturelle, indépendamment des apports scientifiques. Donc, à ce double titre, vocabulaire, à travers le latin, quand vous avez vu un mot latin qui est à l'origine d'un mot français, ce mot français vous devient, je crois, plus clair. Vous l'utilisez de façon plus pertinente, vous avez l'impression de le mieux saisir. Et ça, donc, je fais là abstraction totalement du contenu, de l'apport propre ou de la beauté littéraire. Parce que la beauté littéraire, c'est une chose difficile à apprécier. On peut pas demander à un élève qui se bat contre l'accusatif ou l'ablatif de goûter peut-être au charme ou à l'esthétique. C'est une chose qu'il apprendra après. Ou alors, il la goûtera éventuellement seulement à travers une bonne traduction. Parce qu'il y a de belles traductions, hein, de belles traductions de textes poétiques qui, je pense, donnent une idée très satisfaisante, parce qu'il y a des poètes qui se sont donné la peine, et parmi encore des contemporains, de rendre au mieux en français, ou en anglais, ou en allemand, la forme d'une œuvre littéraire antique.